Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons parler de l'épître de Jacques. C'est notre suivi. Donc, on continue dans Jacques 1, versets 19 à 23. Et vous voyez, le titre que j'ai un peu donné à ce message ce matin, c'est « Quelques conseils, quelques exhortations pour une vie chrétienne épanouie ». Je pense que la vie épanouie, c'est ce que tout le monde recherche. Qui d'entre nous n'a jamais recherché un conseil bienveillant? N'a jamais voulu des conseils de personnes qui sont plus aguerries dans un domaine ou dans un autre, peu importe, hein, que ce soit dans le travail ou dans la vie spirituelle, c'est aussi valable. Et aujourd'hui, on a aussi cette envie de vivre heureux. Je ne sais pas pour vous, mais autour de moi, les gens qui ne sont pas croyants veulent à tout prix vivre heureux. On est en recherche constante de ce bonheur, et ce n'est pas nouveau. Mais alors, les publicitaires en profitent. Tout le monde nous vend des produits qui nous rendent plus heureux. Tout le monde nous vante des séminaires, tout le monde nous vante des voyages qui vont nous rendre plus heureux. Vous achetez ce produit, vous êtes heureux, vous êtes un homme heureux. Mais ce bonheur, il ne dure pas. Cet épanouissement ne dure pas. Et pour la plupart, ce bonheur éphémère n'est que plus amer parce qu'après, il retrouve cette envie de rechercher cette vie épanouie. Et la Bible nous propose, la parole de Dieu, elle nous propose une direction à suivre dans notre marche avec Dieu. Elle nous propose, avec quelques conseils avisés à mettre en pratique, une vie chrétienne épanouie. Et c'est des conseils que Dieu lui-même nous adresse au travers Jacques. C'est des conseils qui sont gratuits, qui sont efficaces, qui sont puissants. Mais il y a un petit hic parfois, c'est qu'il faut y mettre du sien. Il y a un petit effort à fournir. Il y a une petite part de nous-mêmes. Il y a de la persévérance, il y a des efforts, il y a aussi parfois du pardon, il y a aussi travailler les uns avec les autres. Et c'est des choses avec lesquelles on n'est pas forcément dans le monde ou dans lequel on vit. On n'est pas forcément en phase avec ces choses-là. On veut tout, tout de suite. Et pourtant, au travers ces conseils, au travers ces efforts que nous fournissons, on a une vie chrétienne épanouie pour la gloire de Dieu. Et donc, au lieu d'aller à droite, à gauche, qui peut nous montrer, bien sûr, parfois d'excellents conseils, on va ouvrir la Bible dans Jacques. Donc, Jacques 1, versets 19 à 23, on va lire le passage. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure, sans tache et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alors, au travers ces quelques versets, donc 19-23, le Saint-Esprit, sous la plume de Jacques, va nous donner des conseils pour vivre une vie chrétienne en accord avec la vision de la vie chrétienne selon Dieu. Donc, pour commencer, un chrétien, c'est quoi? Ou qu'est-ce qu'il fait, le chrétien? Le chrétien, il est à l'écoute. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Au verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est la première idée qui vient et qui, mine de rien, nous permet d'éviter pas mal de situations explosives. Jacques va nous inviter à écouter. Mais est-ce que nous aimons que nous coupons la parole? Est-ce que quelqu'un aime qu'on lui coupe la parole? Est-ce que je suis à l'aise quand tout le monde parle en même temps? Est-ce que je vais facilement entendre ou écouter ce qui se dit quand tout le monde parle? Est-ce que c'est facile à suivre? Jacques expose l'idée d'un chrétien qui est patient dans la discussion, qui est patient dans l'écoute. Même, j'allais dire même en dehors du cadre chrétien, si quelqu'un nous parle un peu méchamment ou ça peut venir être houleux au travail, il nous apprend à être patient dans l'écoute. Pas seulement entendre, mais écouter. Écouter ce qu'on nous dit. Personnellement, je ne sais pas, vous connaissez peut-être l'anecdote de l'enfant où le papa lui demande d'aller chercher un outil et il est déjà parti avant de savoir quel outil il faut. tu vas me chercher, elle est déjà partie. On entend, mais on n'écoute pas toujours. Et donc, ça nous met dans des situations plus difficiles. Dans la vie chrétienne, c'est pareil. Il faut écouter ce qu'on nous dit pour ne pas nous précipiter dans des situations complexes et fausses parfois. Écoutons Dieu aussi, avec patience, pour ne pas court-circuiter le plan qu'il a pour nous. L'écoute en général, elle est difficile. Car nous avons tous quelque chose à dire, mais la parole de Dieu nous exhorte, nous conseille à l'écoute patiente et véritable. Pourquoi ? Bah, elle le dit, c'est la deuxième raison, parce que l'écoute réelle, on peut se mettre en colère. Sans une réelle écoute, parfois on va se mettre en colère sur des malentendus. Ça porte bien son nom, un malentendu. On a mal entendu, parce qu'on n'a pas bien écouté. Et finalement, on n'est plus dans la paix du Seigneur. C'est un exemple, mais je vais demander l'autorisation. Mais par contre, avec ma femme, parfois, j'ai ce genre de réaction. Je coupe ce qu'elle veut me dire, et du coup, je tombe à côté. Et du coup, des fois, ben, la discussion, elle est tendue. Alors que si je l'avais laissé finir, comme dans Proverbe, il nous a dit qu'on ne coupe pas la parole, qu'on attend que tout soit dit, eh ben, j'aurais évité cette situation. Et parfois, nous sommes pareils. On veut couper la parole à quelqu'un parce qu'on sait mieux, parce qu'on a mal compris ce qu'il voulait nous dire. Laissons-le finir. Mais la grâce de Dieu nous permet de résoudre même ces conflits, mais on aurait pu les éviter. Ce conflit n'aurait pas eu lieu si j'avais laissé ma femme terminer sa phrase. C'est pas pour rien que Jacques nous dit « Attention, soyez prompt à écouter et lent à parler. » Parce que c'est aussi quelque chose qui permet de bonnes relations. Et Jacques l'écrit clairement au verset 20, de toute façon, que la colère du chrétien, ce n'est pas la justice de Dieu. Donc un chrétien en colère, il n'accomplit pas la justice de Dieu. Soyons donc lents à la colère. Lents à la colère, c'est aussi, on l'a vu tout à l'heure en lisant le psaume, c'est aussi un attribut de Dieu qui est lent à la colère. Et Jacques nous propose donc d'être lent à la colère, de ne pas rompre le dialogue avec ceux ou celles qui nous ont blessés, mais apprenons à écouter et à répondre en son temps. C'est la justice de Dieu dans la vie du chrétien. Jacques nous invite à répondre favorablement à la parole de Dieu, à l'Évangile, en rejetant ce qui vient du monde. C'est également cela l'écoute qui sauve. Car la parole de Dieu, l'Évangile de Christ, c'est le salut pour nous, les âmes perdues. Nous étions perdus et nous sommes sauvés parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Et autour de nous, il y a plein de gens qui ne l'ont pas encore écouté, qui sont prompts à se mettre en colère au lieu d'être lents, qui ne veulent pas entendre ce qu'on a à dire. Mais la Bible nous encourage à recevoir la parole de Dieu comme des vérités et des conseils. Et par Christ, nous pouvons agir ainsi. Car nous étions perdus et nos âmes étaient éloignées de Dieu. Et si nous sommes chrétiens aujourd'hui, continuons notre écoute attentive de la parole de Dieu et des paroles d'exhortation des uns et des autres. Des paroles d'encouragement ou parfois de mise en garde. Parce qu'il est bon que des gens aussi nous préviennent si ça va mal dans notre vie, pour l'édification de chacun. Si donc ce matin, vous êtes en recherche de la vérité, soyez à l'écoute de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est la vérité. Et cette parole, comme il est dit, elle peut sauver vos âmes. Et un chrétien, c'est un chrétien qui est pratiquant. Un chrétien est pratiquant. On ne naît pas chrétien, comme il est dit sur l'affiche. On le devient. On entend parfois souvent, quand on demande aux personnes dans la rue, « Ah, je suis croyant, mais pas pratiquant. » Ça, c'est à l'opposé de la parole de Dieu. Un chrétien véritable est un chrétien qui pratique. Au verset 22 à 24, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et l'oublie aussitôt quel il était. » Voilà les versets de la parole. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? On a l'écoute, c'est vrai ? Mais en tant que chrétien, Jacques va nous conseiller vivement de mettre en pratique ce que nous avons entendu. On l'a écouté, on va le mettre en pratique. Comme on le dit, à quoi bon avoir le permis de conduire dans sa poche si c'est pour jamais prendre le volant ? Pareil pour une belle capacité apprise et on la pratique jamais. Ah, je sais, mais je fais pas. Et on veut vraiment mettre en action ce qu'on a. Et si la parole de Dieu nous le dit, généralement on le fait. On va suivre les conseils qu'on est allé chercher. Et la parole de Dieu nous donne conseil. Mon frère, il est garagiste. Un coup, il essaye ma voiture, il me dit « il n'y a plus de freins ». Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé les freins. Il m'a donné son conseil, j'étais venu le voir pour lui demander un avis sur ma voiture. Je l'ai fait. Si la parole de Dieu nous dit « tu as entendu ça, tu l'as écouté, mets-le en pratique ». La parole de Dieu nous donne des conseils pour notre vie chrétienne épanouie avec le Seigneur. Pourquoi ne pas l'écouter ? C'est la même chose dans cette vie spirituelle. C'est ça, Jacques nous exhorte à mettre en pratique ce que nous écoutons. et ce que nous avons lu et ce que nous avons compris. Parce qu'on va facilement faire les choses du monde. Moi, j'ai très rapidement changé les freins de ma voiture, mais je suis encore en travail pour ne pas couper la parole aux gens. Parce que c'est plus long, parce que ça prend du temps. Mais le Seigneur nous demande, nous exhorte, nous conseille au travers Jacques de aussi appliquer dans le domaine spirituel ce que nous faisons si facilement dans le domaine pratique. Nous devons être à l'écoute, réellement, pour ne pas tomber dans nos faux raisonnements. C'est ce qui est dit. Hein. On peut se tromper nous-mêmes par de faux raisonnements et on va faire des compromis. Et la parole de Dieu se dilue dans un compromis, dans un mensonge, et nous ne sommes plus dans une vie chrétienne épanouie. La parole de Dieu, elle est claire. Si nous agissons ainsi, on est semblable à ceux qui se regardent dans le miroir et qui s'oublient. J'ai entendu ça, je me regarde et puis je ne sais plus à quoi je ressemble. Et dans Luc, Jésus comparera aussi ceux qui ne mettent pas en pratique à ceux qui bâtissent la maison sur le sable et sur le roc. On peut construire une belle maison, on peut faire de belles choses en apparence. Parce que ce qui est important, c'est, des fois, c'est ce qui ne se voit pas, c'est la solidité des assises, des bases. Et dès qu'un problème arrive, celui qui a construit sur le sable, tout s'effondre. Celui qui a construit sur le roc, il tient. C'est difficile, c'est éprouvant, mais il tient bon. Mettre la parole de Dieu en pratique. Car si les freins neufs m'ont permis de garder de l'accident que j'aurais pu avoir, la parole de Dieu nous garantit la vie éternelle. C'est encore plus important. La parole de Dieu, mise en pratique, vécue tous les jours, nous garantit encore mieux que l'accident de la route, nous garantit une place au ciel, cohéritier avec Christ. Mettre la parole de Dieu en pratique pour vivre une vie chrétienne véritable, qui se voit, qui brille dans les ténèbres du monde. Ne soyons pas de ceux qui disent, comme je le disais au début de cette petite introduction, croyant mais pas pratiquant. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est un triste constat d'une parole mal écoutée, mal comprise, ignorée, et du coup, on s'exclut du salut qui est en Christ. Un véritable chrétien met en pratique ce qu'il a entendu. Il applique les conseils précieux de Dieu, écrits au travers de la Bible, même si cela est difficile. Dans Romains 7, versets 21-25, c'est Paul là qui va parler et qui va dire « Je trouve en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. » Voilà pourquoi c'est difficile d'appliquer la parole de Dieu, mais cela nous amène dans la persévérance. Un véritable chrétien qui met en pratique va persévérer dans la joie. C'est difficile, mais il va le faire parce qu'il a les promesses de la parole de Dieu. Au verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » C'est un verset très intéressant, parce qu'il nous pose aussi où on en est dans notre vie chrétienne. Ai-je été à l'écoute? Ai-je mis en pratique? Si c'est vrai, alors est-ce que je persévère dans la joie? Est-ce que j'ai de la joie dans mon activité? Jacques souligne vraiment deux éléments essentiels pour vivre cette vie chrétienne épanouie. Connaître la loi, connaître Christ comme son sauveur et Seigneur et salut de ma vie, mais persévérer pour la mise en pratique de la parole dans nos vies. Et ça, c'est le point vraiment, j'allais dire, difficile. Paul l'écrivait déjà aux Romains. C'est difficile parce que dans nos membres agit la loi du péché. Mais dans notre homme intérieur, cet homme régénéré, cet homme renouvelé, cet homme en Christ, on est soumis à la loi de Dieu et on veut faire plaisir à Dieu. Mais on est divisé et on est séparé, on a une difficulté à agir. Et selon les moments, et bien parfois c'est l'un ou l'autre qui peut l'emporter. Mais Jacques nous exhorte vraiment de vivre une vie pratique, une vie chrétienne pratique, pour la mettre à la gloire de Dieu. C'est pas facile, mais il nous demande de persévérer. Il dit bien, la persévérance est un point important pour vivre une vie chrétienne, heureux dans son activité. Mais il faut persévérer et il ne faut pas être un auditeur oublieux. Quand il le dit, celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, donc il faut la persévérance, qui n'est pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, donc on met en pratique, en persévérant ce qu'on a entendu sans l'oublier, celui-là sera heureux dans son activité. C'est un programme difficile, mais pas impossible. Par la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Ça ne vient pas d'un coup, ça demande une discipline de tous les jours, de tous les instants, pour vivre une vie chrétienne qui fait la justice de Dieu et qui lui donne gloire. C'est pourquoi la vie chrétienne est si souvent comparée dans les épîtres de Paul à une course, à quelque chose de physique, à un engagement de tous les jours. Les gens qui courent le 100 mètres aux Olympiades, ils ne commencent pas 15 jours avant les Olympiades. C'est toute leur vie qui est basée sur cet objectif. Et c'est pourquoi Paul en l'utilisera souvent. C'est un objectif. Lorsqu'on se convertit, notre objectif, il est haut placé, mais il n'est pas impossible. Il faut poursuivre ses efforts tout au long de sa vie. Un chrétien qui dit « je suis arrivé », c'est un chrétien qui a oublié quelque chose. On n'est jamais arrivé. Les conseils de la Bible sauvent notre âme et nous rendent heureux dans notre activité. Soyons alors prompts à les mettre en pratique. Après, au verset 26, un chrétien va surveiller son langage. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Jacques enchaîne deux idées, mais qui se tiennent quand même, parce que si on veut mettre en pratique ce qu'on a entendu, et dans Éphésiens 5, versets 3 et 4, Paul va dire aux Éphésiens que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Jacques parle ici rapidement de la langue, mais il en est plus en détail dans le chapitre 3, mais il va mettre en parallèle que ce qu'on dit, est-ce qu'on professe, est-ce que c'est pratiqué. La parole nous invite à refléter dans nos discours, dans nos propos, la réalité de la parole de Dieu. C'est vraiment dans ce sens-là que Paul parle aux Éphésiens. C'est-à-dire, vous êtes chrétien, c'est vrai, mais montrez-le aussi par votre langage. Parce que la manière dont on parle, c'est aussi une manière de témoigner. La vie chrétienne épanouie passe par un langage différent de celui du monde. Un langage qui honore Dieu tout au long de la journée. Et si c'est possible, mais également aussi entre tous, entre nous. Nous devons apprendre la patience pour ne pas parler sans raison ou trop vite, et comme nous l'avons vu au début du passage, apprendre l'écoute. Car Jacques est conscient du pouvoir destructeur de la langue, il en parlera plus tard au chapitre 3, parce qu'il sait quel est le pouvoir qu'il y a dans la langue. Une langue non retenue, les proverbes aussi nous avertissaient déjà du pouvoir destructeur d'une langue qui n'est pas mise en bride. Et si nous voulons une réelle religion, parce que c'est ce qu'il dit, une religion vaine, c'est quelqu'un qui ne tient pas sa langue en bride. Avons-nous une religion vaine? Nous ne voulons pas, alors apprenons à tenir notre langue en bride de peur d'être de ceux qui ont une religion vaine. Et ça vaut pour toutes les excès du langage, que ce soit vantardise, méchanceté, jurons, paroles grossières. Les excès sont nombreux, on a du mal à maîtriser notre langue. Mais ces excès sont vus aussi par les personnes de l'extérieur. Soit ils rendent gloire à Dieu, soit on parle comme le monde. Et pour la petite anecdote, sans mettre en avant, mais avec mes collègues, ils savent que moi je ne dis pas de gros mots, ou j'en dis très peu. Et du coup, quand ils sont en ma présence, ils essaient toujours de ne pas en dire. Donc je me dis, c'est aussi un point positif, parce qu'ils savent, ah oui c'est vrai, toi tu ne dis pas de gros mots. Donc à chaque fois, ils s'auto-reprennent, parce que finalement, par respect pour moi, parce qu'ils savent que j'aime pas ça. Et je dis, ben voilà, ça peut être un témoignage. J'essaie, autant que faire se peut, de croire dans mon cœur que Christ est vivant, mais aussi de le professer aussi par un langage. Tout ça pourquoi? Parce qu'un chrétien, et là il place la barre très haut, c'est un imitateur de Christ. Finalement, au verset 27, il va dire « La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les veuves, les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. » Et le chemin qu'a ouvert Jésus-Christ par la croix, comme on le voit sur le petit schéma, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul médiateur. Et finalement, par ce simple verset, Jacques nous dit, il a présenté le plan de tout le chapitre, de tout ce qu'il va détailler, mais il va dire que l'essentiel de la vie chrétienne, c'est d'être à l'image de Christ. Parce que finalement, tenir sa langue en bride, finalement, être lent à parler, lent à la colère, prompt à l'écoute, visiter les veuves, visiter ceux qui sont dans l'affliction, se préserver de toutes les souillures du monde, qui l'a fait ? Christ. C'est vraiment Christ-centré. Jacques nous dit tout ça, Christ l'a fait. Et c'est la mise en pratique de ce que Christ a fait qui fait de nous des chrétiens véritables pour avoir une vie épanouie en Christ. La mise en pratique de cette religion, c'est finalement la mise en pratique de tous ces conseils. Quand on veut être imitateur de Christ, comme dit Paul, finalement, c'est tous ces conseils qui sont mis en pratique. C'est toutes ces exhortations. Et finalement, l'auteur nous livre comment vivre une vie chrétienne épanouie pour le Seigneur en étant son imitateur. Parce que Jésus-Christ visitait, il est venu nous visiter, nous, qui avions besoin d'aide. Il n'a jamais rechigné, il a été parfait jusqu'au bout. Et c'est pourquoi nous l'avons cloué à la croix, parce que cette perfection nous renvoyait notre propre imperfection. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous sommes appelés à agir de la même manière. Nous sommes appelés à vivre de cette manière. Et quand nous le disons, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, que cela soit vrai. Et cette religion, donc cette vie selon le Seigneur, c'est la seule qui donne gloire à Dieu. C'est la seule qui sauve nos âmes, qui nous transforme véritablement et nous donne le bonheur dans nos activités. C'est difficile, il y a du travail, Christ l'a fait avant nous et le Saint-Esprit nous aide, mais ça nous donne vraiment de belles, belles promesses. Pour conclure, on va retenir qu'un chrétien, donc, c'est à l'écoute. Un chrétien est un homme, une femme qui est à l'ouvrage toute sa vie. Pour ceux qui m'ont dit, je discutais avec un musulman qui dit « Oh, être chrétien », parce qu'il avait le chrétien en général, il dit « C'est facile, vous avez juste à croire et c'est tout. » « Oh, Jésus est mort, et puis voilà, on s'assoit et on attend. » Parce qu'il n'avait pas vu, et j'ai essayé de lui montrer qu'il y a chrétien et chrétien. Il y a le chrétien qui se dit chrétien de nom, et le chrétien renouvelant Jésus-Christ, qui lui sait qu'il est au travail toute sa vie. Que même si son salut est acquis, il sait qu'il doit travailler dans sa chair pour toujours, toujours rendre gloire à son Dieu. Donc un chrétien est un homme à l'ouvrage toute sa vie. Nous nous devons à Dieu, et pour cela nous devons nous parfaire en Christ, pour toujours plus lui ressembler et plaire à Dieu. Dans Romains, à la fin, dans Romains 14, je crois, ou 15, il est dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus. » On doit se revêtir de lui. C'est vraiment passer un vêtement. C'est vraiment se revêtir de tous les attributs que faisait Christ. Mais c'est toujours une barre assez haute, mais qui est possible par le Saint-Esprit. Apprenons donc à mettre en pratique les conseils de la parole. Donc, écoutons, pratiquons, veillons sur notre langue et notre langage, et soyons toujours plus à la ressemblance du Messie. Ça paraît difficile, il y en a qui vont même dire c'est impossible, mais avec persévérance, avec une foi en Dieu, nous sommes tous exhortés à pratiquer la parole et à mettre en pratique ses conseils. Nous sommes tous appelés à revêtir la personne de Christ. Nous pouvons remercier le Seigneur pour cette parole qui nous exhorte, et remercier le Seigneur aussi de ne pas nous laisser seuls. C'est difficile, mais Jacques nous dit, il y a aussi le Saint-Esprit. Ne faisons pas confiance à nous-mêmes, mais pour être à l'écoute, pratiquer, persévérer, surveiller son langage et devenir imitateur de Christ, le Saint-Esprit est à l'œuvre en nous. Faisons-lui confiance et le Seigneur agira pour vraiment nous transformer à sa gloire.